On retrouve tout de suite Yannick Segers, professeur de full contact, kickboxing et self-défense, ceinture noire à 4e dalle de full contact et professeur à Digne-les-Bains depuis plus de 40 ans. Bonjour Yannick, bienvenue dans le studio de Fréquence Mistral Digne.
Bonjour Tiffany.
Alors c'est la troisième fois que tu interviens dans notre studio, une première émission un peu plus longue et là on est sur un format plus court où on se concentre sur différents aspects des arts martiaux ou des sports de combat. Alors je fais un petit rappel puisque tu t'en es chargé les fois précédentes sur le full contact, le kickboxing ou la self-défense pour celles ou ceux qui ne seraient pas au courant et puis tu pourras me corriger si j'oublie certains aspects. Le full contact est une forme de boxe pied-point qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 70, alors que certains karatékas de haut niveau décidèrent d'apporter la dose de contact qui manquait à leur discipline de compétition. Le full contact et le kickboxing font partie de la catégorie boxe pied-point, c'est-à-dire qui autorise les coups de pied et les coups de poing. Le full contact, aussi appelé boxe américaine, est issu du karaté de plein contact et il mélange à la fois des techniques de boxe française, boxe anglaise, karaté ou encore taekwondo. Les coups ne peuvent être portés qu'au-dessus de la ceinture, à la différence du kickboxing où là, les low kicks sont autorisés. Et puis un petit mot de la self-défense ou défense personnelle, c'est une discipline préparatoire à une éventuelle agression dont la gestion de la distance et l'apprentissage de techniques efficaces sont des éléments clés. Elle a pour but d'apprendre aux pratiquants et pratiquantes à savoir réagir à toute situation potentielle avec ou sans armes, afin qu'en cas d'agression, la réponse soit de l'ordre du réflexe spontané. Voilà donc un peu pour la mise en contexte. Yannick, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Je crois que tu as tout dit,
c'est validé.
Je peux partir.
On va avoir besoin de toi encore un petit peu puis pour nous parler, parce que là, pour le coup, je suis pratiquante mais en tant que sport loisir, mais toi, tu as connu aussi la compétition et on est là aujourd'hui pour parler justement de la différence entre sport loisir et sport de compétition. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, toi, de ton parcours et ton rapport à la compétition ?
Oui, donc j'ai attaqué la compète il y a plus de 40 ans de ça, dans la fin des années 70, donc ça date, par le judo. Donc j'ai attaqué la compète en judo, côté d'Aix-en-Provence. J'ai assez vite bifurqué sur le full contact qui venait d'arriver en France, dans les années 70-80, pour une pratique un peu plus, pour moi, efficace, et où on restait debout et on pouvait se servir sur une défense de plusieurs adversaires. Chose compliquée au judo, où tu te retrouves au sol en étranglement et tu peux pas, t'as qu'une personne à saisir. Donc le full contact, ça a de suite été la clé, le défouloir avec des règles, bien sûr. Ce qui m'a de suite plu, c'est les valeurs martiales, puisque c'était d'anciens karatékas qui étaient souvent dans les salles, qui voulaient vraiment à la recherche du chaos. Donc j'ai combattu pendant une petite vingtaine d'années, donc en full contact au départ. J'ai fait pas mal de championnats. J'ai été champion de France en 94 à Sommières. J'ai fait plusieurs Open. Donc les Open, ce sont les combats où toutes les disciplines sont réunies. On peut combattre aussi bien en thaï, en boxe anglaise, en karaté, où tout le monde se rencontre et c'est un Open. C'est celui-là qui reste jusqu'à la fin. Donc ça, je l'ai fait deux fois sur l'Open du Tigre Blanc à Grasse, où j'ai pu finir premier. Mais c'était, c'est pas trop la victoire qui est intéressante, c'est le challenge, c'est un peu ce qu'on a, la peur au ventre, c'est ce qui me motive, avoir cette sensation de perte d'adrénaline qui est hyper intéressante, aller au-delà de cette peur. J'ai longtemps aussi combattu en Kwan Kido, donc Kung Fu vietnamien, où on avait aussi les combats de Manchaku, ce qu'on appelle nous le Long Ziang, où là, j'ai fait à peu près une cinquantaine de combats. On était champion de ligue. On avait pas mal de résultats. On travaillait aussi en équipe de trois, ou alors individuel, bien sûr, en manchaku. Donc ça a duré, je dirais, 25 ans. Ça, c'est pour mon historique à moi. Après, pour le combattant, là, avec le vécu que j'ai toujours travaillé en fonction de mes entraînements, et pas le contraire. J'ai souvent refusé de bons postes, pour justement pouvoir être à l'entraînement. Il faut savoir que nous, on combattait à l'époque, on s'entraînait deux à trois fois par semaine. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on est excentré, et à chaque fois, il faut se taper des heures et des heures de voiture pour pouvoir faire des combats. Donc aujourd'hui, 2026, la génération a changé. elle a changé puisque maintenant, les jeunes ne sont pas motivés comme avant. Ils ne peuvent pas faire deux entraînements par semaine. Il faut vraiment être motivé à 200% et honnêtement, je vois rarement ça. Ils sont plus dans le paraître, ils ne sont pas dans l'action. Et ça, c'est bien dommage.
Parce que donc, si on veut revenir donc à la différence entre la pratique loisir et la pratique compétition, il y a des sources de motivation différentes et des objectifs différents. Et donc, ce que tu constates, c'est que la motivation aujourd'hui, c'est davantage une question d'image que... Oui. Quelle était la motivation pour toi quand tu allais combattre ?
Alors, la motivation, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas de gagner. C'était déjà d'y aller, de me surpasser. Les meilleures rencontres que j'ai pu faire, c'était sur le ring, face à mes adversaires. À chaque fin de combat, on allait boire un coup ensemble. Il y avait une fraternité qui était vraiment profonde par rapport à ce qu'on peut voir de tous les jours, parce qu'on s'était donné tous les deux au maximum. Donc, que j'ai gagné ou perdu, le résultat est le même. On était contents d'avoir été là. Aujourd'hui, je prône plutôt, moi, le sport loisir. Pourquoi le sport loisir ? Parce que les gens peuvent venir en dilettante, se faire plaisir, sortir d'un entraînement en ayant appris plusieurs techniques pour pouvoir les mettre en pratique dans un esprit light. Alors que quand tu es compétiteur, il faut savoir que tous les coups sont portés. Tu es dans une optique de frappe, de recherche de chaos. C'est bien, mais il faut être dedans. Il faut être dedans constamment. Tu ne peux pas faire de la compétition à demi-mesure. C'est où tu es à fond dedans, ou tu ne l'es pas. Et aujourd'hui, tu ne peux pas demander aux gens de s'investir comme ça. Les gens viennent pour se faire plaisir et c'est tout. Et ce n'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Sans compter que les coups qu'on prend, c'est les coups qu'on va ressentir 30, 40 ans après. Ce n'est pas anodin. Tous les coups qu'on prend quand on a 15, 20 ans, même dépasser la cinquantaine, la soixantaine, il y aura des pertes de mémoire et on paye.
Ouais. Il y a des conséquences.
Toujours.
Et dans l'état d'esprit de la compétition, est-ce que tu dirais qu'il y a cette envie de dépasser ses limites, de maximiser les efforts ?
Tout à fait. Mmh. Alors, la compétition, le combattant, hein, pour moi, doit s'entraîner qu'avec des combattants. Hein, il ne peut pas s'amuser à venir s'entraîner avec celui-là qui est en loisir. Il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour se faire plaisir autrement, tranquille. Et le combattant, lui, il est un esprit de combattant. Un esprit de combattant, c'est un esprit guerrier. On y va, on prend des coups, ok, mais je rentre, je suis là, je suis présent, je suis efficace. Moi, maintenant, en tant que professeur depuis plus de 40 ans, je mets un bémol là-dessus, sur la compétition. Il faut vraiment que ce soit personnel. Et on ne peut pas demander à un élève de faire de la compétition. Ça doit vraiment venir de lui. On donne tellement de soi pour les entraînements, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille. On pense qu'à ça, on pense qu'à les combattre. Mais c'est une drogue, c'est une addiction. Pour ça que le sport loisir, c'est bien, parce qu'on est en dilettante, on vient pas, c'est pas grave, on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir de faire. Et je préfère, oui.
Dans les deux cas, j'imagine qu'il y a des défis à relever. Là, je parle un peu sur le plan psychologique. Pour les combats, il y a la pression à gérer, il peut y avoir la peur de l'échec. Quels sont les différents défis à relever quand on est en loisir et quand on est en compétition ?
Alors, en compétition, le défi, c'est d'être toujours préparé à 80-90% toute l'année. Donc, ce qui voudrait dire donc, au moins minimum deux entraînements par jour. Nous, à l'époque, on nous appelait le mardi pour combattre en Italie le samedi. Et on ne nous disait pas « non, on n'est pas prêt » ou « non, c'est comme ça ». C'était comme ça. Après, pour le sport loisir, pour arriver à s'accrocher, c'est le plaisir qu'il peut découvrir sur un entraînement. Sur un entraînement où il sort de là, il a bien transpiré, il a pu progresser dans différents ateliers. Donc ça va le motiver pour aller plus loin, peut-être aussi pour passer des grades. Pourquoi pas être ceinture noire, être instructeur et pouvoir enseigner après, pouvoir ouvrir sa propre salle. Ça oui, et sans avoir de problèmes de santé physique. Parce qu'il faut savoir quand même, en compétition, si je prends mon cas, j'ai deux épaules explosées. Donc on m'a dit que c'était le quota de la compétition. Ouais. Donc tout se paye, donc c'est comme ça. Alors qu'en sport loisir, tu peux durer sur du long terme en étant en bonne santé.
Qu'est-ce que tu dirais du rapport au collectif? Parce qu'on pourrait se dire que dans le sport loisir, bah justement, il y a une pratique conviviale, alors que dans la compète, si on recherche la performance, bah peut-être qu'on est plus individualiste. Mais là, il y a quelques minutes, bah, tu nous disais que toi, les combattants que tu avais affrontés, bah, vous alliez boire un verre après.
Oui.
Quelle différence alors, dans le sens du collectif?
Alors la différence, elle est énorme, dans la mesure où quand tu es combattant, bien sûr que tu vas avoir des coups avec les personnes que tu as affrontées, hein, pas avant, mais surtout après. Mais après, tout le reste, c'est de l'entraînement personnel. Il faut que tu ailles t'entraîner, il faut que tu cours, il faut que tu travailles au sac. Tu peux pas compter sur ton entraîneur pour qu'il te dise il faut faire ci, il faut faire là. Toi, tu dois te prendre en main. Et ça, c'est... si t'es pas motivé au max, tu peux pas le faire. Alors que en entraînement loisir, bah c'est une bande de potes. Tu travailles avec des gens que tu apprécies. En tant que combattant, tu ne l'as pas ça. En tant que combattant, tu es obligé d'aller fort sur l'autre. C'est une personne à qui tu vas faire mal. Donc à partir de là, tu t'es pas vraiment. Est-ce que lui est d'accord pour avoir mal? Tu vois? Donc c'est vraiment l'esprit est pas du tout le même.
Peut-être qu'on peut en profiter aussi pour préciser, disons, sur un plan un peu culture sportive, quelques détails sur la compétition en sport de combat ou en arts martiaux. Je pense aux catégories d'âge, de poids. Est-ce que tu veux nous parler du rôle des arbitres, peut-être aussi? Ça, c'est une différence entre le loisir et la compétition. Quand on pratique en loisir, il n'y a pas l'arbitre qui est là pour faire respecter un cadre.
Alors, c'est pour ça qu'à la salle, de temps en temps, je ne sais pas si tu as participé à ça, hein, vous faisiez des petits combats et chacun avait un rôle différent. Donc un coup vous étiez combattant, un coup vous étiez arbitre central, un coup vous étiez entraîneur pour pouvoir donner de bonnes informations entre le premier et le deuxième round. Ça va vous permettre de mieux visualiser chacun. Parce que souvent quand on regarde un match de boxe, on dit oui mais là il n'a rien compris, qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut pouvoir se mettre à la place de tout le monde pour pouvoir avoir un avis qui est quand même plus neutre. Après en compétition, on a toujours tendance un peu à aller plus loin et l'arbitre est là pour nous arrêter. En tant qu'ancien combattant, l'impression que j'avais quand je montais sur un ring, c'était que je me déchargeais un peu de mon énergie. J'aurais une batterie de voiture à côté, je mettais les deux mains, je la remplissais. C'est l'impression que j'avais. Donc on se vide beaucoup. Et pour en avoir discuté avec nombreux combattants, c'est un peu tout le monde. Après, chacun son degré de stress. Mais c'est intéressant. Après, c'est pas le combattant qui est en face qui nous impressionne, c'est le lieu. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent on monte sur un ring, il y a un gars en face, c'est pas le gars qui est impressionnant, c'est l'atmosphère, c'est les gens qui sont autour, qui nous regardent, on n'est pas dans un endroit naturel, on est deux gladiateurs qui allons se affronter, donc automatiquement on est obligé quand même d'être un peu de stress.
Il y a tout un cadre et une ambiance.
C'est le cadre, l'ambiance qui nous plombe un peu, mais ça nous motive aussi, c'est le contradictoire, on a peur d'y aller et c'est intéressant d'y aller, donc si on n'avait pas peur, on n'irait pas.
Il y a toujours un dosage à garder.
Et oui, et c'est ce dosage qui est intéressant pour les combattants. On peut pas, un combattant qui va me dire « Non, j'y vais, j'ai pas peur », c'est pas vrai. Si t'as pas peur, t'y vas pas. T'y vas pas et tu fais autre chose. Ce qui est intéressant, c'est la peur qui te pousse justement à le faire, pour te dépasser, pour aller plus loin.
Alors en parlant de se dépasser, et peut-être pour conclure sur cette petite chronique, est-ce que tu retiens de toi tes années d'expérience que c'est pas forcément le meilleur des objectifs de dépasser ses limites, de chercher à se surpasser, mais que quelque part il faut aussi penser à respecter ses limites pour voir sur le long terme, pour pratiquer sur le long terme?
Alors moi, pour mon cas personnel, j'avais un travail à faire justement sur cette violence, sur cette décharge que je voulais, que j'avais besoin. Donc c'est vrai que les arts martiaux m'ont permis d'avoir un encadrement au top, avec ces valeurs qui m'entourent, qui me cernent. Et donc ça m'a permis de bien grandir, de mieux grandir justement. Après, pour en revenir aux professeurs et au combat, je ne pense pas qu'il faille combattre pour être un bon professeur. Je te dirais peut-être même le contraire. J'ai souvent vu des professeurs qui n'avaient jamais combattu, qui avaient une psychologie plus pointue et un regard plus affûté, oui, que le combattant lui-même. Le combattant veut simplement que son élève lui ressemble et fasse la même chose, alors que le professeur qui n'a jamais combattu va justement voir de meilleurs points sur le combattant, plus intéressant. Mais je pense qu'être combattant, c'est régler quelque chose sur soi-même.
Et encore une fois, pour faire un petit clin d'œil à la chronique précédente, il y a une question de regard, quoi.
Ouais, mais sur soi, pas sur les autres, puisque les autres nous importent peu. On le fait pour soi, on le fait pas pour le regard des autres.
Et ben on aura peut-être l'occasion de revenir aussi sur cet aspect-là et sur d'autres aspects. Merci beaucoup Yannick. Je rappelle donc que tu es professeur de full contact kickboxing self-défense, que tu es ceinture noire 4e dalle de full contact et professeur à Digne-les-Bains depuis plus de 40 ans. Merci beaucoup. On espère te retrouver prochainement pour aborder un autre thème autour
pas
des sports de combat et arts martiaux.
Merci à toi.
Merci et bonne journée.
Bonne journée.